Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Et aujourd'hui, un reportage pour lequel il a fallu enfiler une paire de bottes. Direction le secteur de la Lande et de la Bretèche à Saint-Grégoire. Deux riverains s'y immobilisent pour protéger une grande zone humide, propriété de la commune. Le golfe voisin, un golfe de 9 trous pour le moment, a en tête un jour d'y étendre son activité, même si la mairie tempère pour le moment ses désirs. Au-delà de ce combat, les deux citoyens que vous allez entendre, ils défendent une approche sensible d'un paysage qu'on peut qualifier de commun, mais qui pour autant s'avère très riche. Vous pouvez les retrouver, ces deux personnes que vous allez entendre, qui ont préféré rester anonymes, sur un blog hébergé par Mediapart, son nom, Habité en rivière.
Et donc c'est une vaste zone agronaturelle qui fait 90 hectares, qui s'étend du canal, l'île Robinson, jusqu'à derrière la voie ferrée, en fait. Et ici, précisément, on est dans la zone humide de la Lande et de la Bretèche.
Vers le golfe, par rapport à ici, de nous.
Derrière les gros chênes.
Le golfe occupe un peu plus de 4 hectares et il se trouve lui-même en zone humide, en fait.
Ah oui.
Nous, on alerte depuis un an et demi, depuis justement juillet 2023, depuis les premières tontes constatées dans les prairies protégées.
Alors, on va passer par là, et après on passe derrière.
Donc là, ce sont plutôt les prairies de la Lande qui bénéficient aussi d'une protection forte, puisqu'elles elles sont situées en zonage NP. Donc ça, c'est la protection la plus forte du Puy de Rennes Métropole, c'est-à-dire en nature protégée.
PLUI pour plan local d'urbanisme intercommunal.
On voit ici, par exemple, du jonc, en fait. Et ça fait partie des espèces végétales qu'on appelle hygrophiles, c'est-à-dire qui poussent en sol humide.
C'est ici qu'idéalement le golfe aimerait s'étendre.
Alors, il s'était étendu que là-bas.
Ici, en fait, ce sont des prairies à fourrage. Il y a un agriculteur, en fait, qui fauche... il me semble deux fois par an et deux étés de suite, à l'été 2023 et 2024, on a constaté des tontes étranges, des tontes hebdomadaires qui du coup fragilisent le sol parce que c'est un sol en fait qui est censé aspirer l'eau, servir de tampon en cas d'inondation. Et donc effectivement un parcours de golf en fait avait été tondu. Donc partant de la parcelle qui est au fond là-bas, qui est la parcelle 164, qui est une parcelle en fait qui bénéficie d'un zonage un peu moins protecteur, ce qu'on appelle NE, qui permet l'activité de loisirs. Et le parcours de golf en fait qui avait été tondu, donc s'étendait ici en zone NP et dans les prairies en face, on va les voir, qui sont également en zone NP et surtout en milieu naturel d'intérêt écologique.
C'est-à-dire que ça avait été tondu avant d'avoir quelconque aval, autorisation de faire ça.
Voilà. On a commencé à alerter les associations de défense de l'environnement, comme Eau et Rivières en Bretagne, Bretagne Vivante. On n'a pas eu tout de suite de retour, ça a été long quand même. Et puis, à notre grande surprise, les soulèvements de la terre sont venus, en fait. Alors, c'était pour dénoncer l'accaparement des terres et l'accaparement de l'eau. Leur venue a été mal comprise et mal communiquée aussi. Parce que, forcément, le gérant du golfe, en fait... a lui répondu qu'il était un golfe écologique, sans produits phytosanitaires, sans irrigation. Sauf que l'enjeu n'était pas là, en fait. Les soulèvements de la terre, en fait, dénonçaient justement l'ambition d'agrandissement déjà à l'époque du golfe et son accaparement des prairies voisines. Et puis en tout cas, cette venue, elle a été... assez efficace parce qu'en fait, après leur venue, il a arrêté de tondre. Il a retiré ses trous, ses drapeaux, etc. Et puis après, l'hiver 2023-2024 s'est passé, les pieds dans l'eau, ici, dans la zone humide. Et puis, ça a recommencé à partir de juin 2024. Là, il a repris les tontes de manière hebdomadaire dans les prairies là qu'on vient de traverser. Donc, ce qui fait que l'été, ici, là, ça repoussait. Mais l'été, en fait, le sol était presque laissé à nu, en fait. Et donc, là, on a recommencé, en fait, à alerter. Et puis, ben, on apprend en septembre 2024 qu'une demande de STECAL a été déposée. Alors à ce moment-là, on ne sait pas très bien de quoi il en ressort, en fait. Pourquoi ce STECAL a été demandé?
Le STECAL, c'est secteur de taille et de capacité d'accueil limité.
Et puis, les associations qui suivent en fait le dossier nous informent qu'en fait, que ce STECAL, pour une extension et pour améliorer l'accueil avec un espace restauration, a reçu un avis défavorable de la CDPENAF, c'était début octobre, il me semble, 2024.
Vous avez cité la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Voilà. C'est un vrai casse-tête, les acronymes. Voilà, c'est très technique, c'est très plombant, on va dire. La dimension administrative, juridique, en fait, elle est hyper plombante parce que c'est chronophage pour comprendre tout ça, pour comprendre comment ça se passe. Et en même temps, on est obligé de passer par là pour pouvoir suivre les procédures et alerter en fait les associations, les élus qui peuvent agir en fait au moment de ces procédures.
Il y a cet avis défavorable, il y a également dans la presse locale la municipalité qui se veut rassurante et qui explique que le plan local d'urbanisme intercommunal, il ne permet pas une extension du golf sur le terrain où on se trouve. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore en état d'alerte, quoi?
On est encore en état d'alerte parce que depuis le début, ce dossier en fait ne montre une grande légèreté par rapport aux enjeux de la zone humide, alors que c'est un secteur à fort impact environnemental et qui mérite en fait qu'on prenne avec sérieux les enjeux de la zone humide pour l'intérêt général en fait de tous les citoyens de l'ensemble de la métropole.
Pour compléter, il faut dire que l'article de presse, en l'occurrence dans le quotidien Ouest France, parle d'un projet qui est ajourné. Donc, ce qui peut laisser entendre, en tout cas, que le propriétaire ne
lâchera pas.
Ne lâche pas pour le moment.
Effectivement, il ne lâchera pas. Il l'a déjà dit. Nous, on sait par le biais de quelqu'un à la municipalité qu'une présentation est prévue pour fin janvier sur un possible projet d'agrandissement à nouveau. Voilà. Donc on sait en fait qu'il faut rester vigilant, que ce deuxième sécale concernant du coup l'amélioration de l'accueil en espace restauration est possiblement un marchepied vers le développement du golf et son agrandissement futur. Donc on reste vigilant puisque même pour ce sécale en fait est soumis à enquête publique et donc du coup aux citoyens de Rennes Métropole un dossier incomplet avec des évaluations environnementales qui sont largement insuffisantes et qui ne prennent pas en compte les zones humides. D'ailleurs, dans les documents même, il est précisé que des évaluations complémentaires seront demandées.
Vous en profitez là, donc au moment de l'enquête publique, a commencé mi-décembre et qui se poursuit jusqu'au 22 janvier, pour inviter les citoyens à donner leur avis sur ce projet-là, qui concerne donc plutôt pour le moment un espace restauration sur le site actuel du golf. Et vous en profitez aussi pour émettre certaines demandes concernant l'espace qui est autour de nous.
Oui, tout à fait. En fait, on invite effectivement tous les citoyens de Rennes Métropole, mais en fait, tout le monde peut s'exprimer. On n'a pas besoin d'être habitant de Rennes Métropole pour s'exprimer sur cette enquête publique. Si on a le souci de la gestion des zones humides, en fait, on peut s'exprimer. Et effectivement, concernant le STECAL du golf, on en profite aussi pour exprimer nos remarques, nos observations, nos réflexions sur la gestion future, en fait, de ce secteur sensible. En fait, ce secteur, il est concerné par ce qu'on appelle une OAP, une orientation d'aménagement programmée, une OAP de loisirs. Et donc, on souhaite sensibiliser sur le fait que l'orientation de loisirs ne peut pas seule guider la gestion et l'aménagement de ce territoire. Cette orientation de loisirs doit ne pas rentrer en contradiction avec d'autres orientations, les orientations sur l'eau, la biodiversité, sur la trame verte, la trame bleue, sur la santé et sur l'agriculture également, puisque il faut, nous on demande par exemple que l'activité agricole soit maintenue sur le secteur. Là, sur la parcelle ici qui est en NE, on demande en fait à ce que cette parcelle soit reclassée en NP, c'est-à-dire avec une protection plus forte. Et on suit en cela les recommandations de l'association Eau et Rivière qui demande effectivement que toute zone humide dans la métropole bénéficie d'un classement en fait plus élevé.
Parce que le classement NE, il pourrait permettre l'installation de choses ici, quoi.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut concilier l'ouverture de ces espaces en fait au plus grand nombre, que tout le monde puisse venir s'y balader, profiter de ces espaces-là, tout en préservant le milieu. Mais il faut avoir ce double souci. Et donc là, on passe en milieu naturel d'intérêt écologique. Cette parcelle, en fait, elle fait partie des prairies humides de la Bretèche. Et qui bénéficie vraiment de la protection la plus forte des graines. Et là, on voit bien à la végétation, en fait. Oui, que ce soit la végétation, de toute façon, le sol, là, est gorgé d'eau. Donc cette prairie aussi, elle avait été tondue à ras pendant tout l'été.
C'est pour ça que là, c'est à cette hauteur-là, normalement, ça devrait être
où oui,
on voit
tout
les
bichets,
là-bas. C'est aussi ça.
Bah, j'ai des super bruits d'ambiance, en tout cas.
Au mois d'octobre, les étudiants... Les Beaux-Arts de Rennes et Brest sont venus écouter la prairie au mois d'octobre et qui ont fait du captage à son, justement, à la fois des sons d'ambiance, mais ils ont aussi. Alors, comment ça s'appelle ce micro piezo,
ouais, ouais.
Qu'ils ont imperméabilisé pour pouvoir les plonger dans l'eau.
Ah, ouais.
Et en plus, quand ils sont venus, les prairies étaient pleines d'eau. Du coup, ils ont expérimenté. C'était hyper intéressant parce que ça. Ça ouvre des imaginaires, en fait, ça nous fait entendre et voir les prairies autrement.
Et là, donc, il y a un petit étang. En fait, c'est un fossé qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc là, c'est toujours en eau. Et puis là, ça a été ouvert aussi, défriché. Normalement, c'est plutôt... on ne voit même pas l'étang, normalement, d'ici. Donc ça a été fait aussi en août-septembre. Je pense qu'il y a des idées un peu de paysagisme derrière. Bon, on peut faire le tour sinon, mais après, ça devient vraiment... infranchissable, c'est vraiment de la ronce,
ouais.
Et on ne peut pas y aller, nous humains, et c'est là que la plupart des gros mammifères nichent, quoi, les chevreuils, les sangliers, quand ils sont là.
En tout cas, ces actions répétées dans des prairies protégées, en fait, montrent soit la légèreté avec laquelle le golfe cohabite avec la zone humide, ou une ignorance, on ne sait pas trop. Notre sensibilité écologique, en fait, elle est présente depuis longtemps. Après, sur notre engagement, comme beaucoup, on a marché dans des manifs, des choses comme ça. On a signé plein de pétitions. On essaie, à notre niveau, de consommer de manière plus durable, en essayant d'avoir le moins d'impact possible. C'est vraiment notre rencontre avec ce territoire qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on passe le pas d'essayer d'influencer directement, en fait, des orientations politiques. Voilà. Et du coup, c'est vraiment l'expérience d'un territoire qui fait qu'on va franchir ce pas-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête simplement de signer des pétitions, de marcher dans des manifs. On va continuer à le faire, bien sûr. Mais c'est l'expérience d'un territoire qui fait qu'à un moment donné, ça crée des attachements vraiment. Et on se sent presque une obligation, finalement, d'agir pour ce territoire. Ces zones humides, en fait, elles doivent être... protégées parce qu'elles remplissent une fonction de puits de carbone, de réserve de biodiversité, elles régulent aussi le climat. L'eau aussi, elles ont une fonction d'épuration de l'eau, donc elles interviennent dans le cycle de l'eau. Donc ces zones humides, elles sont d'intérêt général en fait. Donc c'est ça qui est important, c'est que ces zones humides, elles sont à protéger pour l'intérêt général de tous, de la métropole, mais aussi pour les non-humains, c'est-à-dire pour les espèces faunistiques, floristiques qui sont ici. Et donc c'est pour ça en fait que forcément il y a des conflits d'usage entre d'un côté un golfe et de l'autre du coup un paysage comme ça. On se dit tiens, ce sont des paysages qui sont vides, qu'on pourrait optimiser ou en tout cas rendre peut-être plus rentable. Or non, ces zones humides en fait, ce ne sont pas des espaces vides, ce sont des espaces en fait qui
sont déjà rentables en fait.
Exactement, qui jouent déjà un rôle d'intérêt général et qui puis en plus ont, au-delà de leur intérêt écologique, elles remplissent aussi un rôle culturel, social, dans le sens où elles font partie de notre paysage. Et puis c'est elles aussi qui relient la campagne, la métropole. Et donc peut-être qu'on a du mal en fait à gérer ces relations-là en fait.
On dit un mot sur ce blog que vous avez lancé, donc il est retrouvé en ligne sur les blogs de Mediapart. Son titre, c'est « Habiter en rivière ». L'idée, c'est de parler d'une façon plutôt sensible de ce combat qu'est le vôtre aujourd'hui.
Oui, oui. Alors on a, en fait, depuis un moment, on s'interroge sur la manière de parler d'un espace sensible, ici une zone humide. De quel droit est-ce qu'on peut parler pour elle en fait, quelle voix est-ce qu'on peut lui prêter? Ça c'est un souci qui nous traverse constamment. Est-ce qu'on en parle bien? On n'est pas hydrologue, on n'est pas scientifique, et pourtant on a une sensibilité, un attachement en tout cas à ce territoire. Et donc on a décidé de lancer ce blog pour justement donner une voix, en tout cas essayer, expérimenter des manières de parler de la zone humide, de parler pour, de parler avec, et de trouver différentes manières justement de décrire, d'évoquer, d'exprimer la relation sensible qu'on peut avoir avec un territoire comme celui-ci.
La rivière déploie ses fils qui s'entrelacent et participent au tissu du vivant. Elle nourrit les roselières, les carissets, fait pousser joncs, iris des marais, reines des prés et tant d'autres. Par un concert d'alliances dont l'intuition a été perdue, la zone humide est un habitat pour d'innombrables espèces faunistiques et floristiques. Cette biodiversité échappe bien souvent à la sensibilité humaine. Au mieux, elle est reconnue sous la forme d'inventaire naturaliste.
Là, par le chemin à gauche, on rejoint le canal.
Juste là, le centre.
Voilà. Ce canal, d'ailleurs, qu'on essaie maintenant de plus en plus d'appeler la rivière ou la rivière canalisée, parce que nous autres, habitants de la métropole, on est tellement habitués à dire « Ah, je vais courir sur le canal » ou « Je vais me promener au bord du canal ». On en a oublié qu'en fait, c'était une rivière vivante qui déborde, qui s'infiltre dans les prairies. Quand on l'appelle canal, on a vraiment l'impression qu'on maîtrise le cours d'eau, alors qu'en fait, la rivière, elle continue à faire, à faire sa vie.
Elle agit à plein de niveaux, en fait. Et c'est vrai que l'idée du canal, c'est comme si c'était une route, un peu un artifice, quoi, un truc, alors que pas complètement.
Donc là, on revient sur le chemin où on était tout à l'heure. Oui,
c'est ça. L'enjeu des zones humides, en fait, n'est pas propre à ce territoire. En fait, ça se retrouve dans d'autres territoires, ne serait-ce que dans Rennes Métropole, mais aussi ailleurs, dans la région et ailleurs. On va peut-être chercher, en fait, à dialoguer avec d'autres territoires qui connaissent les mêmes enjeux. Bien sûr, on tâtonne, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître ce qu'est une zone humide. On s'interroge sur la meilleure manière d'être en relation avec elle. Et peut-être qu'effectivement, dans d'autres territoires, il y aurait peut-être des exemples à suivre, peut-être qu'il y aurait des échanges fructueux à avoir avec d'autres citoyens, d'autres habitants ailleurs.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.